Je vous fais écouter un petit son. C'était ce mercredi matin, 9 septembre, à 5h du matin, des activistes déguisés en policiers ont toqué à la porte du domicile privé du ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, à Dave, donc Namur. Ils ont témoigné de leur opposition au projet de loi sur les visites domiciliaires. Et donc c'est une petite vidéo qui circule sur le net, que vous pouvez aller voir.
Monsieur Prévost, c'est la police.
Nous sommes ici parce qu'on a une autorisation de visite domiciliaire. Il est 5h du matin, on peut venir entre 5h du matin et 21h. Il semblerait, selon nos informations, on a une validation du juge d'instruction, on a le droit d'être ici, que vous hébergez des personnes migrantes qui sont en irrégularité administrative de séjour. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas les bons papiers et qu'elles ont reçu un ordre de quitter le territoire. En plus de ça, elles pourraient être des personnes qui peuvent nuire à l'ordre public. Notamment, elles ont fait des manifestations. On doit vous le dire tout de suite. Alors maintenant, monsieur Prévost, nous sommes ici parce que nous avons le droit de rentrer chez vous pour prendre ces personnes migrantes. C'est l'Office des étrangers qui est derrière tout ça.
Alors, si vous êtes dûment informé, ce que je ne doute pas que vous êtes, comme policier, vous savez
nous obéissons à la loi, monsieur.
Oui, mais justement, vous devez...
Nous ne sommes pas là pour discuter, ceci étant dit. Hein.
Ceci, vous devez la connaître.
Regardez, monsieur.
Parce que c'est pas une... Vous avez dit qu'il pourrait être un danger parce qu'il a participé à une manifestation.
D'abord, un trouble à l'ordre public.
Oui, d'abord, ce n'est pas une question de trouble à l'ordre public. C'est une question de problème de sécurité nationale ou effectivement de danger.
Monsieur,
on n'est pas là pour discuter, monsieur. C'est un juge d'instruction qui en a attesté.
Oui, je comprends que vous fassiez votre petite séquence, mais le souci, entre nous, n'ayons pas... On le sait bien, Freddy, on n'a pas de langage de langue de bois. Entre nous, on se le dit toujours. On sait très bien que l'objectif de cette législation, monsieur, c'est de venir chercher des personnes qui sont sans papier, qui ont ordre de quitter le territoire. Et qui n'ont pas tempéré de leur propre chef.
Et qui représentent.
Et donc maintenant, on vient les chercher chez les gens qui sont solidaires avec eux, qui font preuve d'humanisme. Ça, c'est fini, monsieur. C'est fini. Les personnes qui sont chez vous doivent venir avec nous pour aller en centre fermé et pour retourner dans leur pays.
Écoutez, vous avez fini votre show ?
Ce n'est pas un show, monsieur. Bientôt, ce sera la réalité.
Allez, pas du tout.
Pas chez vous, vous n'hébergez pas de migrants sans papier.
Micro ouvert.
Go. Et là, on est le 15 juillet. Il fait chaud.
Lendemain de la défaite des Français à la Coupe du Monde, lendemain de la fête nationale française.
C'est 14 juillet.
Oui, et aujourd'hui c'est le 15.
T'as regardé le foot ?
Oui.
T'aimes bien ça ?
J'aime bien, comme beaucoup de gens, je pense que j'aime bien quand tout à coup ça devient un peu l'attraction. Un peu le truc dont tout le monde parle, forcément, moi, je trouve ça chouette de parler avec les autres, donc j'essaie de me tenir un peu au courant quand même. J'étais chez mon ami Yves, Yves Inan, qui est un réalisateur de documentaires, qui a fait partie de l'équipe de Striptease, et qui a réalisé quelques très beaux Striptease, notamment la... Comment on dit une trilogie où il n'y en a que deux ? Donc pas une trilogie, mais la suite. Tiens ta droite et tiens-toi droite. Donc c'est un jeune néo-nazi liégeois dont on suit le quotidien dans une espèce de petit logement pris en charge par une communauté religieuse à Liège dans les années 90. Et puis on le retrouve quelques années plus tard et il va avoir un enfant. Et en fait, lui, évidemment, espère avoir un garçon pour pouvoir en faire un bon petit nazillon. Il a déjà préparé la chambre avec des poignards et des effigies du Führer sur les murs. Et en fait, on va à l'échographie, le film commence comme ça. Et en fait, il découvre que c'est une petite fille. Et là, c'est le drame.
excellent.
Donc, c'est mon ami Yves, que j'adore, que j'aime d'amour vrai, qui a réalisé certains des plus beaux striptease, Yves Inan. Et donc j'ai regardé le foot avec lui hier et avec mes amis aussi Robin, Elias, Nicolas, Clara et mon amoureux Loïc.
Ok. Toute cette petite bande. Qui fait aussi. Attends, parce que c'est comme ça que je commence. Pourquoi je te rencontre ? Pourquoi j'ai envie de te rencontrer ? Alors je vais pas te faire. On va y aller vite. Je connaissais le billet vert depuis longtemps. Donc le billet vert en un ou deux mots, c'est...
C'est un collectif de création de vidéos qui au départ s'intéressait surtout à l'écologie Et petit à petit, parce qu'on a grandi aussi, s'est intéressé à des questions de philosophie politique, à la question de la lutte des classes, à la question de la croissance et du productivisme, et donc de la décroissance, à la question de la technologie et donc de la technocritique, et tout ça en essayant de mettre en lien toujours avec les luttes écologiques d'aujourd'hui. Et donc c'est un collectif, et c'est vrai qu'aujourd'hui le collectif ne crée plus beaucoup, mais on est toujours très amis.
Ah ben ça c'est bien, ça c'est très bien.
Bah oui, c'est la base. Hein.
Mais pour pas perdre le fil, donc le billet vert, je voyais très bien qui c'était. Enfin, je voyais très bien. J'avais pas plus. Ah ben c'est, oui, on a oublié de préciser, ça, excellent.
Dans l'église.
Hein. J'ai oublié de préciser.
Nous sommes précisément dans l'église de l'abbaye de la Cambre.
Mais on est bien, hein, que frais. Hein.
On s'est abrité là parce que justement c'est la canicule dehors et ils sont en train de réparer les vitraux. Et donc il n'y avait pas trop de bruit jusqu'à présent. Et là, ils ont commencé à taper dans... Alors, comment on appelle les petits croisillons dans lesquels ils
installent
les vitraux ?
En tout cas, c'est les vitraux.
En tout cas, c'est
je ne sais pas ce qu'ils font.
Vitraux, ouais. Mais il en manque plein. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ces vitraux. Il en manque plein.
Bon, reprenons. Le billet vert.
Oui.
Moi, je n'avais pas trop envie de voilà, sans plus. Pourquoi ? Oui, parce que c'était, je trouve, dans les... C'était comment expliquer ça en deux mots ? C'était trop...
Un peu écolo-bobo.
Oui, voilà.
De ton point de vue, oui.
Oui, de mon point de vue. Évidemment, c'est toujours comme ça, hein, de mon point de vue.
Selon qu'on voit... En fait, ça dépend si tu vois un ou deux trucs, et selon les trucs que tu vois, peut-être...
Oui, mais c'est ça, j'ai un peu regardé. Ah, le billet vert, génial, c'est en Belgique. J'ai envie de savoir un peu, voir. Et puis j'étais... Oh non. C'était... Ça ne me parlait pas plus que ça, tu vois. Et du coup, j'ai vu récemment passer un post Facebook de toi. Et c'était sur l'Europe, le Parlement, ils applaudissent tous pour préciser.
Oui, c'était une vidéo sur les hubs de retour, une vidéo qu'on a fait en partenariat avec Amnesty International. Parce que là, pour le coup, c'est un sujet... même moi, j'ai découvert le sujet en faisant la vidéo. Donc, en deux mots, et je ne suis pas spécialiste du sujet, hein, mais le Parlement européen a adopté une résolution qui permet désormais d'envoyer des personnes migrantes, des migrants, dans des centres de détention, dans des centres fermés, dans des pays qui ne sont pas leur pays d'origine. Ce qui était déjà pratiqué par l'administration Trump. Donc, par exemple, il me semble que c'était des migrants péruviens qui avaient été arrêtés aux États-Unis et qui ont été envoyés dans un centre fermé au Congo. Oui. Parce que Trump a fait des accords un peu forcés avec la RDC, avec toujours un peu un pistolet diplomatique sur la tempe, sur la question d'aide humanitaire, etc. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est goupillé, mais en tout cas, ils sont arrangés pour pouvoir envoyer des migrants dans des pays qui sont déjà dans des situations très difficiles.
Oui, dans des camps, enfin, horribles, quoi.
Ah ouais. Et alors, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la terminologie de l'Union européenne qui parle de hub pour des centres fermés. Et moi, ça m'a fait penser, tu sais, à ce novlang qui existe dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat moderne en général, d'utiliser des mots un peu smart en anglais pour parler de choses horribles. Notamment, je sais qu'il y a des termes comme ça, comme nudging, en fait, qui est un concept qui parle clairement de manipuler ses collaborateurs. Le terme aussi collaborateur, plutôt que de dire employé, pour oublier qu'il y a un lien de subordination. Bon, ça c'est plus ancien, mais le terme plan social, quand on parle de plan social alors que c'est virer tout le monde. Et là, le terme hub, qui est un peu connoté smart, moderne, intelligent, machin, pour parler de centre fermé. J'ai trouvé que c'était d'un cynisme.
On est dedans, hein, là, oui. Et alors, tout le monde qui applaudit aussi. Il y a une vidéo comme ça où on voit tous les gens qui applaudissent. Mais quelle honte, quoi.
Ouais. La vidéo commençait comme ça. C'était moi qui disais... moi, j'adore quand les gens sont contents. Et puis, on les voit tous applaudir. Et on se demande, mais pourquoi ils sont aussi contents? Est-ce qu'on vient de voter... On a sûrement dû voter un truc super chouette. Le remboursement des glaces au caramel. Un cheval gratuit pour tout le monde. Et puis, boum, on voit l'extrait où tu as la présentatrice du journal d'Arte qui dit... le vote pour les hubs de retour, renvoyer des migrants dans des pays tiers, etc.
Ouais. Voilà, on
et donc, c'est cette vidéo-là qui t'a donné envie qu'on fasse.
Voilà, et j'ai vu cette vidéo et j'ai fait « Ah, ben ça, c'est intéressant, tu vois, ça, c'est intéressant, ça m'intéresse !» Mais du coup, je me suis inventé que, ben voilà, les fachos sont là, à la porte du pouvoir, il n'y a plus de thunes, on le sait, pour l'écologie, là, ou je ne sais pas quoi, et tout ce qui va avec, et donc... Félicien, oui, se fait enfin de l'actu qui nous intéresse, quoi, parce que quand je dis, mais j'exagère en disant ça. Hein. Je dis pas.
Mais je comprends à fond.
Et du coup, j'ai envie de te contacter et voici.
En fait, bon, c'est le billet vert, ce collectif-là, il s'est aussi constitué à un moment où on commençait à parler d'écologie alors qu'on en parlait pas beaucoup, il me semble.
Mais il y a combien de temps, du coup?
Bah, c'était on l'a lancé en 2017, et puis en 2018, il y a eu toutes les marches pour le climat, il y a eu la grève des jeunes pour le climat, il y a eu Greta Thunberg. Ah, tout à coup, il a coupé sa machine à réparer les vitraux. Donc là, on profite enfin de l'acoustique de cette belle église de l'abbaye de la Cambre. Ah, est-ce qu'on va se faire jeter? Non, c'est bon, c'est des touristes. Donc évidemment, je vais continuer sur un ton un peu plus...
Un ton neige.
Un peu plus calme. Oui, donc en fait, à ce moment-là, il y avait, comme on dit de manière un peu pompeuse, un momentum pour parler d'écologie. Et nous, on commençait à découvrir, à utiliser ces outils de la création vidéo.
Et t'as quel âge, du coup ?
29 ans. Et donc, quand on a lancé le billet vert, j'avais presque 10 ans. J'avais une petite vingtaine d'années. Okay. Et donc, on a un peu fait partie de cette génération climat, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a fait beaucoup de vidéos qui parlent des enjeux climatiques, de la biodiversité, etc., etc., et qu'on voit que ces enjeux sont régulièrement instrumentalisés par des entreprises ou des partis néoconservateurs ou ultralibéraux et qui se réapproprient cet imaginaire, etc., etc., c'est vrai qu'on peut être frappé d'une certaine lassitude. Au bout d'un moment, on a l'impression de répéter tout le temps la même chose, de parler toujours au même, et que le système s'adapte pour créer des nouveaux récits qui intègrent cet imaginaire écolo, climat, dans sa communication et dans... Bref, et donc je pense qu'on sait...
Tu veux dire que le capital se réapproprie chaque fois la marge oui. pour en faire des produits de masse, par exemple. Oui, ça c'est un classique, oui.
C'est un classique. Et puis, moi je reste très, très attaché aux questions d'écologie contemporaine. C'est vrai que ce sont aussi des sujets où on a l'impression de parler un petit peu toujours au même. Et maintenant que j'ai repris des vidéos, mais à mon nom, donc Félicien Bogart sur les réseaux, c'est vrai que je fais un peu plus de vidéos sur d'autres, sur des sujets qui sont peut-être plus concernants directement des questions sociales, politiques, culturelles, qui touchent plus directement les gens dans leur quotidien. Parce que j'ai l'impression que ça permet aussi d'avoir l'oreille d'une audience. Mais je garde toujours ces sujets d'écologie sensible chevillés au corps, et ça me donne envie de refaire des vidéos sur ces sujets-là, peut-être sur des formats plus longs, et peut-être de pouvoir aussi intéresser d'autres audiences à ces thèmes-là, qui sont parfois plus difficiles d'accès.
Mais quand je pense à l'écologie, ça me fait penser au soulèvement de la Terre.
Oui.
Tu sais, très, très ancré. T'as lu le bouquin ?
Non, je ne l'ai pas lu.
Très ancré dans la vie des gens, en fait, hein, puisque là, on parle aussi de méga-bassines. Enfin, il y a des paysans, donc pas des agriculteurs de la grosse machine. Enfin, tu vois, il y a moyen... moi, cette écologie-là, elle m'intéresse, quoi. Tu vois, de ramener les choses à la vie des gens. Mm-hmm. Et votre billet vert, par exemple, j'ai regardé...
Diamant Palace, notre web-série.
Voilà.
C'était plus intello, ce truc-là. Bon, moi, c'est un projet auquel je suis hyper attaché. Mais c'est vrai que c'est clairement un film, une série un peu niche, quoi. Ça parle déjà a priori.
Oui, en effet. Moi je dis pas qu'il t'as les gens de terrain, puis t'as les gens qui réfléchissent, puis enfin on peut former un tout ensemble, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous, votre c'est un peu comment dire? Déjà le Diamant Palace. Le nom, quoi. Alors, c'est pour faire une petite... Moi, je suis un peu critique, là, je te titille, mais ouais. Vraiment, je trouve que c'est pas accessible, quoi. Et puis, aussi, tous ces gens qui sont... c'est pas ça, il y a un côté que j'aime bien, mais je me dis, mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Je te titille, hein.
Non, mais t'as raison.
Vous êtes tous couchés, il y a une caméra en haut qui vous filme, et vous êtes là, vous caressez les... Quand je dis vous, c'est votre bande, quoi, de gens, là. Je sais pas si c'est qui ces jeunes qui se caressent les cheveux, qui fument un pétard, et voilà. Et je me dis, OK. Oui, et c'est très esthétisant, quoi,
je
non?
À fond, ouais.
Esthétique, quoi.
Je comprends le côté.
Changement. Je comprends qu'on en arrive avec l'extrême droite qui est là aux portes du pouvoir. Ah, merde.
Ah ouais, carrément. C'est de notre faute, en fait.
Non, mais je veux dire, comme si après Je titille, moi j'aime bien, parce que sinon on va dans le même... sinon je dirais c'est génial, oui. Non, vraiment, je trouve non, que...
Je comprends tout à fait. En fait, c'est aussi... Quand, tu sais, quand on fait quelque chose, on...
Tu le prends mal ?
Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi aussi, quand je vois Diamant Palace, maintenant, je vois surtout les défauts de la démarche. Et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour les jeunes gars qu'on était et qui essayaient de faire quelque chose avec vraiment beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'envie. Et en fait, c'est ça qu'on apprend aussi quand on se met à fabriquer des trucs, c'est qu'il y a ce qu'on a envie de faire et puis il y a ce qu'on fait. Et c'est souvent, ça peut être parfois deux choses très différentes. J'ai cet exemple en tête, je crois que c'était Nabil Ben Yadir, qui avait fait le film Les Barons. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. C'est un très joli film qui est en fait très drôle. C'est une comédie noire qui se passe à Bruxelles. Mais c'était une productrice qui m'avait raconté que... Alors, lui pourrait confirmer si c'est vrai ou pas, que quand il avait écrit le film, il pensait vraiment faire un drame. Et en fait, quand il l'a tourné, il s'est rendu compte en le faisant qu'il était en train de faire une comédie. Bon... le bon côté des choses, c'est que c'est très réussi. C'est vraiment une très bonne comédie. Mais il a pas fait ce qu'il pensait faire au départ. Et c'est vrai que nous, quand on a commencé à penser le projet Diamant Palace, on pensait justement faire un truc hyper accessible, très ludique, avec cette espèce de lieu imaginaire qui est donc un théâtre abandonné, qui existe vraiment et qui s'appelait en fait il y a 100 ans le Diamant Palace. C'est pour ça qu'on a pris.
J'ai compris ça, mais ouais. Justement, ça aurait été chouette d'appeler ça autrement, tu vois.
Sans doute, ouais. Enfin, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, quand on l'a fait, on se disait qu'on faisait un truc vraiment pour tout le monde, quoi.
Diamant Palace, c'est ça que je veux dire. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais Diamant Palace, ça fait vraiment pas tout le monde, quoi.
En fait, c'est ce qui nous plaisait. Bon, il y a rien de pire que d'essayer d'expliquer un truc qu'on n'a pas tout à fait réussi à faire. Mais bon, je vais quand même me lancer dedans. Il y a ça s'appelle Diamant Palace, mais en fait, c'est un lieu en ruine. Qui est abandonné et qui tombe en lambeaux. Et donc nous, c'était ça, c'était le contraste qu'on aimait bien, quoi. Le fait que ce lieu, en fait, témoigne d'une sorte de splendeur passée, de lieu grand bourgeois comme
mais,
ça.
Mais Félicien, je ne sais pas si tu as envie d'aller sur la justification de tout ce bazar. Moi, je dis, voilà, de mon point de vue extérieurement, je trouve que ce n'est pas accessible à tout le monde. Ouais, et déjà, juste le nom, voilà, ouais, bonk. Ouais. Mais quoi, il y avait de la thune, parce que c'est vrai que ça rassemble plein de gens, quoi. On a l'impression qu'il y a plein de gens, il y a je sais pas combien de caméras, c'est une image super jolie, quoi. Vous aviez de la thune pour faire ça.
Alors on a fait ça, c'était fou. On a fait ça avec donc en coproduction avec des copains en France qui ont pu obtenir une aide du CNC en France, chose qui n'existe pas.
Voilà, c'est ça, c'est français, le CNC.
Exactement. Et en fait, c'était une aide de 50 000 euros avec laquelle on a fait 6 fois 26 minutes en docu-fiction comme ça. Donc c'était délirant. Je pense que le jour où on était le plus nombreux sur le tournage avec les figurants, on n'était pas loin de 80 personnes. Donc c'était vraiment une espèce de méga paquebot, mais avec des toutes petites rames. Et donc ça a été difficile aussi pour tout le monde. En fait, c'est...
Difficile, qu'est-ce que tu veux dire ?
Oh ben c'était trop grand pour nous. C'était trop ambitieux. Avec les petits moyens qu'on avait aujourd'hui, les gens qui bénéficient de cette aide du CNC en général... ils l'investissent dans un nouvel ordi et dans une bonne caméra et ils se payent un salaire pendant un an pour pouvoir faire des vidéos YouTube où ils sont face caméra, etc. Là, nous, on a essayé de faire une espèce de projet à la fois artistique et militant, mais avec une belle image, avec des figurants et bref, tout un espèce de gros déploiement de moyens parce qu'on avait l'impression que 50 000 euros, c'était énorme. Et c'est vrai que c'est énorme, en fait. C'est-à-dire que nous, on faisait des vidéos avec...
Ça va, oui, ça dépend. Pour faire un film, c'est rien du tout.
Mais voilà, effectivement, pour faire un film, c'est rien du tout. Et pour faire une série de 6 fois 26 minutes, c'était vraiment, vraiment rien du tout. Et donc, on a été beaucoup aidés par des copains. Mais pour nous, c'était énorme. Enfin, pour nous, on n'avait jamais eu autant de moyens pour faire un truc. Et donc, ça se sent qu'il y a ce côté un petit peu... inexpérimenté, on va dire. Et c'est ça qui fait que je suis encore hyper attaché à ce projet et qui est toujours visible sur YouTube, d'ailleurs. Moi, je suis encore hyper attaché à ce petit film.
Mais tu crois que c'est comme ça qu'on peut... comment dire ? Comment vous voyez ? C'est un outil pour changer le monde ? C'est quoi ce bazar ?
Non. Bah écoute, c'était une tentative de...
Des réals qui s'essayent.
Oui, je crois qu'il y avait un peu de ça. Et bah en fait, on avait envie d'essayer quelque chose. Comme je t'ai dit, hein, quand on le faisait, on pensait qu'on faisait un truc qui allait faire des centaines de milliers de vues sur YouTube, parce que justement, on mettait les moyens pour que ça soit facile d'accès, beau à regarder, drôle, dynamique, etc. Et en fait, on a fait un truc en fait un peu école d'art, quoi, un peu un télo, un peu bref. Mais avec quelques petits moments, je trouve que je trouve quand même réussi, quoi.
Mais moi, je trouve ça chouette de discuter de ça, de.
Et alors aussi là, il y a eu une seconde vie pour le projet, en grande partie grâce à Elias qui fait partie du Billet Vert, et grâce à Claire Obscure Productions qui nous a mis à disposition salle de montage et tout ce qu'il fallait pour en fait reprendre les rushs des entretiens qu'on avait filmés pour la série. Et sortir les versions longues des entretiens sur YouTube.
J'ai vu Bégodeau.
Ah ben oui, c'est pas mal.
J'ai vu Bégodeau, je l'aime bien, moi. Moi, j'adore ce type. Il est tellement précis, j'entends dans d'autres... non ?
Oui.
Il est précis, des fois, dans la pensée. Il est critique par rapport à lui, sa manière, des fois, de penser. Enfin, j'aime vraiment bien ce type.
Oui, c'est un type brillant. Et puis, c'était... Bon, je pense qu'il est un peu tombé en disgrâce, et qu'il a un peu fait le con aussi sur certaines choses récemment, mais j'ai pas trop suivi. Mais
tu parles de quoi avec son avant-dernier livre, le mulet là.
J'ai pas trop suivi, j'avoue.
Oui, il y a eu des histoires.
Je sais qu'il a fait, je crois qu'il avait fait une blague lourde sur son blog, qui s'était moqué d'une autrice, qui avait été blessée, il s'est pas excusé. Enfin bref, c'était un peu décevant, mais.
C'est la vie en même temps. Hein. Des fois, ce que je veux dire, ouais. T'es pas obligé d'appeler la police pour ça. Hein.
Non, sans doute pas, mais en tout cas, on n'est pas non plus obligé d'être béat devant des gens et de se dire ils doivent être parfaits. Ça je pense aussi. C'est-à-dire, ça reste un type intéressant, même s'il peut être con et dire des conneries.
Bah, heureusement.
Ouais, mais ça reste un type intéressant. Je pense que c'est... Bon, là, du coup, on part encore sur autre chose, mais...
Non, c'est genre... Non, on ne part pas sur autre chose. C'est le lien, je trouve, des créations artistiques. Cette manière, je veux dire, Bégodeau, il est vachement aussi engagé. Je veux dire, il est vachement politique, quoi, tu vois. On essaye de faire des choses pour que les gens se réveillent, ou bien on creuse pour savoir comment marche le monde et le changer. Parce que moi, je te rends compte parce que ça m'intéresse, moi. Changer le monde, tu vois. Alors, je pense pas qu'il faut le changer, il faudrait carrément le casser, quoi. Et toi, tu penses quoi, toi ?
Tu commencerais par quoi ? Qu'est-ce que tu casserais en premier ?
Oh ! Je sais pas, ça. Mais il faut casser... il faut tout casser, quoi. Je sais pas par quoi je commencerais. Je me suis pas posé cette question. Toi, tu sais ?
Qu'est-ce que je casserais ? Peut-être mon réveil le matin. Ça, ce serait déjà pas mal.
Ouais, devoir se lever le matin ? Pour aller gagner sa croûte ?
Ouais, je suis pas un grand fan de ça. Mais bon, il faut le faire. Hein.
À mon avis, il y a plein de gens qui sont pas fans de ça. Hein.
Ouais.
Et il y en a qui sont plus privilégiés que d'autres. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils aiment encore.
Ouais, hein. Ultra privilégiés. Je sais pas, ici, on est dans une église, il y a beaucoup de vitraux qui sont cassés. J'aurais pas commencé par casser les vitraux. Ah ben là, ils sont en train de les réparer. Là. Tu l'entends, ça, dans ton micro ?
Ouais, on l'entend.
Bing, boong.
Et quoi ? Du coup... Bon, il y a 20 minutes, là.
Il reste 20 minutes ?
Non.
Ah, on parle depuis 20 minutes.
Waouh. On parle depuis 20 minutes, et bien ouais, il reste 20 minutes, quoi.
Il y a un sujet en particulier que tu voudrais qu'on aborde ?
Mais oui, donc, Diamant Palace, voilà, c'est un peu toi, ça, avec d'autres.
Ah, c'est vraiment le billet vert. Ah ! Là, il a carrément complètement démoli un des vitraux, là. T'as vu, il est tombé là.
Non, j'ai pas vu, mais j'ai un peu entendu.
Non, Diamant Palace, c'était donc une web série réalisée par Le Billet Vert, donc ce collectif avec mes amis Ilias.
Et quoi, c'est Ilias. Des potes d'école ?
C'est des potes de jeunesse. Ilias d'école et Ilias un peu après. Et puis.
Bon, maintenant, il y a ton.
Mon acolyte Robin, avec qui je fais les vidéos. Du coup, ça c'est. On n'a pas de nom de média pour ça, c'est vraiment à mon nom, quoi. C'est okay. Félicien. Et je fais ça avec Robin Conrad, alias Loxley, qui s'est fait connaître dans le milieu de la musique et du rap bruxellois avec le groupe L'Or du Commun, qui est vraiment, une pépite de la scène belge. Et Robin, moi, je trouve un très, très grand et auteur et interprète, mais qui en a un peu eu marre de la musique et qui a voulu se lancer dans la réalisation, d'abord documentaire, puis qui a fait aussi un petit peu de radio et de télévision. C'est comme ça qu'on s'est connus, surtout de la radio. Et puis, qui a réalisé un documentaire avec Damso aussi. Ils sont allés à Kinshasa ensemble. Et puis nous, on a écrit un peu des projets avec Robin. Et puis moi, je me suis fait un petit peu écarter de la télé. Lui, à son émission à la radio, s'est arrêté. Et donc, on s'est dit, tiens, mais au fond, faisons simple.
À quoi vous faites ça depuis quand, du coup, alors, des
là,
vidéos?
Ça fait un an qu'on fait ces vidéos-là.
Okay.
Donc, ce format court sur les réseaux.
Et donc, toujours cette idée de contenu où on va dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs.
C'est ce qu'on essaye, en tout cas.
Oui, c'est ce qu'on essaye. C'est ce qu'on essaye.
On essaye de faire des vidéos qui puissent être concernantes sur des sujets qui, pour nous, sont importants et dont on ne parle pas suffisamment, qui ne sont pas suffisamment présents, ou des réflexions qui ne nous semblent pas suffisamment présentes.
Et comment vous y prenez quoi, vous avez entendu un truc, vous avez envie de le retravailler à votre sauce?
Ouais, c'est ça. On peut venir l'un ou l'autre avec une idée. Et puis, souvent, moi, je fais une première version d'écriture, puis on se met dessus. Robin fait le montage. Et encore au montage, on réfléchit, on réécrit, on réenregistre des trucs. Enfin, on se prend la tête, quoi. On réfléchit vraiment pour essayer de faire un truc à la fois court, avec. On pense beaucoup aussi aux premières secondes de la vidéo, parce qu'on est dans une telle bataille aujourd'hui pour arriver à retenir de l'attention, et comme on essaie de le faire sur des sujets qui nous semblent importants, c'est vrai qu'on se prend beaucoup la tête là-dessus, de se dire comment faire un truc qui donne envie d'être regardé.
Mais c'est chouette aussi de prendre le contre-pied de ça.
Ben c'est ce qu'on a essayé avec Diamant Palace, mais selon toi, pas avec grand succès.
Ben oui, mais je veux dire, c'est pas tout l'un. Je veux dire, oui, Diamant Palace, ben, tu le dis toi-même, c'est pas accessible à tout le monde.
Non, c'est sûr. Et puis parfois, on est surpris, des trucs qui semblent pas accessibles cartonnent, et des trucs qui
comme
sont...
Comme quoi?
Je sais pas, j'avais vu ce film dont tout le monde parlait, Soundtrack to a coup d'État. Bon, qui reste un peu dans une niche documentaire, mais qui a été un vrai succès documentaire. Moi, j'ai vu le film, je l'ai trouvé admirable sur la forme, mais très difficile d'accès. Et tout le monde m'a dit, va voir ce film, c'est formidable.
Pourquoi tu dis difficile d'accès?
Parce que c'est un film remarquable. L'idée est vraiment remarquable. Il explique comment les musiciens de jazz... afro-descendants aux États-Unis ont été utilisés par la CIA
comme
moyen de soft power.
Comment tu dis le titre?
Soundtrack to a coup d'État.
Oui, je l'ai vu.
Et en fait, je trouve que si on n'est pas familiarisé avec le sujet, le film est très difficile d'accès, qui ne donne pas vraiment les clés de compréhension.
Oui, mais voilà, vous, à la différence, c'était un énorme projet avec plusieurs capsules. Enfin, tu vois, il y avait un peu l'idée d'épisode, de suite. Oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, dans, tu parles de Diamant Palace toujours.
Oui.
Écoute, moi, c'est toujours mon grand souci, c'est de me dire, mais comment faire un truc qui vaille la peine d'être fait? Parce qu'en plus, c'est beaucoup de travail de faire de l'audiovisuel. Ça demande beaucoup d'énergie, de beaucoup de gens.
Mais quoi, tu vis de ça?
Moi, je vis de ça. J'ai la chance d'en vivre. Mais il n'en reste pas moins que c'est un déploiement de moyens, quoi que tu fasses, même une des vidéos courtes sur Internet. Et donc, je me dis, il faut que ça en vaille la peine, quoi. Il faut que ça puisse trouver écho, intéresser ou toucher des gens et parler de choses qui valent la peine d'être racontées dans cette espèce de...
Ah oui, mais il y a tellement de
choses produites.
Mais comment t'as envie de ça? C'est de mon point de vue, alors qu'il y a une profusion.
Mais moi, c'est bien pour ça que mon rêve que j'avais plus jeune d'être réalisateur, je l'ai un peu perdu, parce que je me rends compte que c'est souvent assez vain. Tu vois, tu vas faire un documentaire sur un sujet que tu trouves très important, ou un film de fiction qui sera un peu ton univers, ton truc, ton ego trip sur pellicule, enfin plus sur pellicule maintenant, sur disque dur externe. Et en fait, ça va être vu par peut-être quelques centaines, quelques milliers de gens qui l'auront oublié le lendemain ou le surlendemain. Et donc, je me dis, en fait, moi je rêvais vraiment d'être réalisateur, et maintenant, peut-être un peu moins. Et cette espèce d'adresse directe dans des vidéos sur des sujets de société, des sujets actuels, etc., en essayant de participer aux réflexions des gens, mais de manière un peu sans artifice, comme ça, boum, directement, J'ai l'impression de me sentir un peu utile en faisant ça, mais peut-être que c'est une impression. Hein.
Et quoi, donc, on change le monde, on le casse, ou bien on garde quand même des choses?
C'est que, comme je disais tout à l'heure,
on commence par quoi?
Oui, c'est ça.
Parce que tu es d'accord que ce que tu fais, ça pousse à se poser des questions sur le monde dans lequel on est, d'accord?
Oui, bien entendu, oui, bien sûr. Oui.
Je pose la question, tu y crois vraiment ou bien ça devient une manière d'être est-ce que tu crois vraiment qu'on peut changer les choses? Est-ce que tu y crois vraiment à ça?
Pour moi, c'est deux questions différentes. Est-ce que je crois vraiment dans tout ce que je raconte? Oui. Est-ce que je crois vraiment qu'on peut changer les choses? Ça dépend de quelles choses.
T'es pas sûr, là?
Ça dépend par quels moyens. Si, je suis assez sûr de... Là, je suis assez sûr de ce que je te dis. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, changer les choses, tu vois. C'est...
Non, mais changer les choses, moi, j'ai déjà réfléchi. C'est réalisable, hein. Il suffit... quand je dis ça, ça veut dire que c'est des connards, là, qui sont aux manettes du pouvoir. Il y aurait moyen d'imaginer... Enfin, les bibliothèques en sont remplies de
propositions alternatives sur plein de
oui, sujets. Faire le pouvoir. Oui, voilà, d'accord, on est d'accord là-dessus. Après, c'est comment arriver à changer cette donne.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça.
Et c'est là, je pense, où on bute de beaucoup. C'est pour ça aussi que l'extrême droite est là aux portes du pouvoir aussi. C'est qu'on bute sur comment faire pour gagner. Pour changer ce...
Oui, puis l'extrême droite a peu de scrupules à agiter les passions tristes et à instrumentaliser la peur, les peurs et les colères des gens.
Et puis on les entend aussi dans les médias mainstream tout le temps. Ils ont les moyens aussi, ils ont l'argent, je veux dire, non ? Comment toi, de ton point de vue de réal, parce que je pense que t'es plus... Comment tu vois tout ça, là ?
Avec beaucoup de confusion, parce que je trouve le monde dans lequel on s'aventure déjà change à une vitesse extrêmement confusante, et donc avec beaucoup de confusion.
Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Quel exemple pour qu'on comprenne?
Par exemple, la question des intelligences artificielles génératives et de la place...
Toute la technologie, quoi.
Voilà, ça je trouve que ça va plus vite que notre capacité... à s'adapter ou à s'habituer ou à critiquer ou à simplement appréhender les choses.
On maîtrise rien, là.
Oui, et la manière complètement anarchique, pas au sens politique du terme, ça serait peut-être pas le bon mot à utiliser, la manière complètement bordélique, on va dire, avec laquelle elle se déploie et s'installe dans nos vies.
Oui, moi, je dirais pas bordélique, c'est très calculé, tout ça, hein, c'est très...
Je suis pas sûr. Alors, c'est très calculé, bien sûr, les géants de la tech, ils ont un agenda politique, ils ont...
C'est ça que je veux dire, moi.
Alors, oui. En revanche, les conséquences que ça a déjà et que ça aura, non seulement dans nos vies, mais dans les systèmes humains, c'est pas du tout calculé.
Oui, mais ça, ils s'en foutent complètement.
Alors, peut-être qu'ils s'en foutent, c'est d'ailleurs peut-être... Mais je suis pas sûr qu'ils s'en foutent tant que ça, puisqu'ils se construisent des bunkers, etc.
Au niveau de la nature, ça...
Pas que. Je pense que ces gens sont conscient.
Oui, il y a la nature, et puis l'environnement, là, je sais pas quoi, et il y a les humains, j'ai l'impression que c'est deux choses.
Oui, mais je pense
pour eux, eux.
Les bunkers qui se construisent, ce n'est pas que pour lutter contre la canicule, c'est parce qu'ils, potentiellement, ils anticipent qu'il pourrait y avoir des risques de guerre civile, des risques de conflits techniques qui prendraient des dimensions encore tout autres que toutes celles qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Moi, je pense que c'est que justement, c'est tu vois, il y a cette idée de grand complot, c'est-à-dire d'un ordre organisé du monde pour arriver à telle fin, à telle, etc. Moi, je pense que les choses se font de manière beaucoup plus bordélique que ça, et que y compris les gens qui sont comme tu disais aux manettes, si on prend des gens comme Sam Altman, le PDG de OpenAI, ou Ray Kurzweil, le gars qui a lancé l'université de la singularité aux États-Unis, ou Elon Musk, ou l'autre là, de Meta, Mark Zuckerberg, etc. Moi, je pense que ces gens ne
réfléchissent pas.
Anticipent une partie du bordel qu'ils sont en train de mettre en place, mais loin s'en faut, anticipent la réalité des conséquences que les déploiements de ces nouvelles technologies dans la vie et dans le monde vont avoir, et que c'est un petit peu comme des scénaristes de séries qui continueraient comme ça à produire des épisodes sans savoir comment ils vont terminer la dernière saison de la série. Et quelque part, oui, ils s'en foutent.
Oui, oui, sûrement, ils ne savent pas la finalité, mais nous non plus. Il n'y a personne qui sait ça. Mais ils savent quand même que ça fait des ravages.
Je sais, par exemple...
Tu comprends ?
Ah oui, oui, ça, c'est
clair. Ça fait des guerres, ça fait... Enfin...
Je sais, par exemple, que dans la Silicon Valley, l'idée d'un revenu universel, ouais, mais confortable, hein, c'est-à-dire autour de 3 000 $, notamment a été testée sur une communauté de 1 000 personnes, je pense, aux États-Unis, et ça a été piloté, organisé par Sam Altman, le mec d'OpenAI. À vérifier ce que je dis là, parce que je parle de mémoire, peut-être que je raconte des couilles, mais en gros, je sais que l'idée du revenu universel commence à de plus en plus faire son chemin chez ces gens-là, parce qu'ils se rendent compte qu'avec leurs IA, ils vont démolir à terme tout le tissu social, économique, des centaines de milliers d'emplois, etc. Et donc ils se disent, ah ben la solution c'est peut-être le revenu universel, mais en fait ça crée d'autres problèmes, parce que les expériences qui ont été faites jusqu'à présent de ce revenu universel, qui en fait est pour l'instant théorisé et défendu plutôt par des gens qui sont des ultralibéraux, hein, alors que c'est plutôt une idée de gauche au départ, on se rend compte que les gens ne sont pas heureux. Bref, c'est super compliqué. Mais donc, ils s'emparent comme ça de débuts de petits bouts de solutions parce qu'ils anticipent le bordel dans lequel ils sont en train de nous mettre. Mais je pense que on est loin d'être dans une étude raisonnée et une planification réelle de ce que tout ça va prendre comme dimension et comme ampleur, et que on n'est pas au bout de nos surprises, hélas.
Oui, oui, mais quand tu dis « on », c'est là qu'il faut raisonner, quoi, et se dire c'est pas... Il y a vraiment aussi... Alors, on les appelle l'élite, ou en tout cas ceux qui ont le pouvoir de l'argent. Enfin, ils décident aussi de choses que le commun des mortels ne décide pas, quoi. Tu vois, il y a quand même une... Oui. Voilà. Après, en effet, je pense qu'ils ne maîtrisent pas tout, mais ça fait des ravages, quoi. Il ne faut pas être grand devin pour le voir ou pour... Tu comprends ?
Oui, oui, tout à fait.
Mais est-ce que tu es allé à le rassemblement des artistes, là, il y avait aujourd'hui une manif de rassemblement.
Non, j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui. Vraiment, en plus. Ça m'arrive de travailler parfois. Non, j'ai...
Et tu vois de quoi il s'agit, là ? Avec la... Il y a une loi qui passe demain.
Oui, c'était la loi Jambon, non ?
Oui, c'est ça.
Ah, oui. De Jean Jambon. Ouais. Non, je suis pas allé. Si j'avais pu y aller, j'y serais allé.
Et tu t'en penses quoi de ça ?
Je connais pas suffisamment bien le sujet pour en parler comme ça à la radio, surtout. Mais alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets que je ne maîtrise pas qui ont été abordés depuis une demi-heure, donc on est peut-être plus à ça près. Mais
non, mais ça n'empêche pas de penser les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors moi, si je pourrais pas du tout me parler non plus, tu vois. On réfléchit, on lit des livres, on parle avec les gens. Enfin, tu vois, on a quand même un avis sur les choses.
Mais sur cette loi en particulier, comme j'ai pas vraiment étudié.
C'est une histoire de pension. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose. Les politiques qui vont emmerder les artistes et qui n'auront pas leur pension convenablement convenable.
Oui, bah, je pense qu'il y a d'autres gens à aller chercher en ce moment. Si on veut, resserrer les boulons, puisque c'est de ça que parle ce gouvernement, il y a quand même d'autres gens à aller embêter que les artistes.
Qui ça ?
Bah, notamment les gens qui font de l'évasion fiscale, notamment les gens qui touchent des indemnités d'anciens ministres, que sais-je. J'avais entendu un truc délirant sur les provinces. Enfin bref, là on s'aventure sur des sujets que je maîtrise malheureusement pas assez. Donc je préfère pas comment. Je voudrais pas trop. J'ai fait pas mal le café du commerce. Là, ce sera carrément la brasserie
mais
du commerce.
Arrête, t'exagères. Mais comment il parle du micro ouvert, le café du commerce ?
Non Non, mais là, je parle de moi. Là, je parle de moi.
Bah, mais arrête, c'est pas le café du commerce. On essaie de te rencontrer un peu, toi, Félicien, au-delà de tes vidéos. Pourquoi tu fais des vidéos? C'est quoi? Qu'est-ce que t'es animé par quoi? Et là, maintenant, quand on sort de tes vidéos, t'es plus à l'aise de parler du monde dans lequel on est.
Oh, c'est pas vrai, ça, j'ai pas l'impression. Et je te parlais de trucs.
Moi, c'est pour ça que j'ai envie de te rencontrer. C'est comment tu vois, toi, la véracité de tes du changement là, du changement de monde. Je veux dire, tu fais des vidéos pour dire des choses sur le monde dans lequel on est. T'es pas d'accord avec ce qui se dit ou je sais pas quoi là.
Oui, mais
tout ça, c'est tu dissocies les deux. Il y a ta vie. Alors là, je dis, bah ouais, t'as un vrai réel, quoi. Tu vois.
Non, parce que si tu me posais des questions sur des sujets que je connais un peu, je trouverais ça comme quoi, intéressant de te répondre. Je sais pas de quoi t'aurais envie de parler.
Avec toutes les vidéos que tu fais,
là, tu me parles d'une loi que sur laquelle malheureusement j'ai
bien sûr, mais travaillé. c'est le nouveau gouvernement Arizona là qui continue sa logique d'aller pomper tout ce qui est social, culturel, tu comprends?
Bah oui, ça je comprends, oui.
Mais voilà. Après évidemment, on connaît pas précisément telle loi, nanani, nanana, mais bon, c'est l'ordre des pensions, quoi. Avant 2014, ils veulent plus compter tout le travail qu'il y a eu des gens. Les gens sont des artistes, quoi. Voilà, c'est à partir de 2014. Et donc, tous les vieux artistes, là, ils se retournent. Enfin, ils sont pas contents.
Mmh. Ah ben, je comprends.
Bon, c'est un petit bout de ce que j'ai compris. Après, il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire. Mais je te titille là-dessus parce que c'est des histoires politiques, c'est des histoires économiques, c'est des histoires sociales. Voilà, c'est ce que tu fais. Je le répète, c'est des vidéos pour... on n'est pas content, c'est pas juste ce qui se passe. Et, tu vois, et moi, j'avais envie de t'entendre. Comment est-ce que tu vois entre tes vidéos, ta création artistique, on va dire. D'accord? Comment tu vois, toi, quand t'es tout seul dans ta glace, qu'est-ce que...
Ou bien dans ma glace.
Où t'arrives à faire une séparation entre où t'es sur le travail, et puis à côté de ça, voilà, tu t'en fous un peu.
Non, je m'en fous pas. Parce que sinon, je ferais autre chose.
Ouais.
Mais je comprends pas très, très bien la question. Qu'est-ce que tu as envie que je te dise par rapport à ça.
Moi, j'ai envie que tu ne me dises rien du tout de spécial. Je venais te rencontrer pour voir. Là, je te dis, je répète, hein, moi, je reste patiente. Il y a le Diamant Palace. Je trouve que, voilà, je t'ai dit, je n'étais pas trop fan de tout ça, du billet vert et tout. Là, ouais. Tu as fait une vidéo qui parlait plus de l'Europe et tout ce qu'elle fait aussi par rapport aux migrants. Blablabla. Ça me parlait plus. Et du coup, j'avais envie de te rencontrer. J'avais envie de savoir un petit peu, tiens, comment tu te positionnes dans le concret, quoi, dans les trucs incarnés, dans le réel, quoi. Comment est-ce que tu t'incarnes dans ce monde dans lequel on est, quoi, tu vois?
Ben, en faisant ces vidéos. Mais c'est vrai que la question est très vaste, et tu vois, comment...
Je vais te donner un exemple.
Ouais, vas-y.
Moi, je fais de la radio, mais ça se limite vraiment pas à ça, quoi. Je bookine, je rencontre les gens, je travaille dans le social, ça m'intéresse. Enfin, tu vois, j'ai l'impression d'être ancré dans dans la vie, quoi, dans le réel, tu vois, et pas... Et donc, oui, tu comprends.
T'as envie que je te dise les trucs que je fais en dehors?
Non, j'ai pas envie que tu me dises, on peut en rester là, hein, voilà. Je veux dire, moi, je venais un petit peu parler politique ancrée, quoi. Tiens, derrière tes vidéos, derrière...
Ok, je comprends. Mais écoute, quand on faisait... quand on participait à des manifs, ou qu'on a participé à l'occupation d'une sapinière... au Luxembourg, qu'on a participé à des actions autour du billet vert. Moi, je me mettais beaucoup dans une démarche militante. Maintenant, avec ces vidéos que je fais sur Internet, j'essaye justement de pas trop me mettre dans cette position-là pour aussi essayer de parler à d'autres gens. Voilà, ça, c'est ce qui me semble utile, c'est là où je peux me sentir utile dans ma vie de maintenant.
Quoi, on pourrait pas être, moi j'aime pas le mot militant, hein, mais on pourrait pas être engagé non plus, ça marche pas, mais on pourrait pas être intéressé du monde dans lequel on est, militant et parler avec plein de gens, c'est pas possible ça?
Ben si, Je vois pas pourquoi ce que, enfin, je comprends pas pourquoi pourquoi t'essayes de me coincer là-dessus, parce que j'ai.
Non mais et moi, dans mes micros verts, je coince jamais les gens. Hein. Ouais. Sache-le. Hein. Ouais. Moi, je te suis, c'est parce que tu bloques sur le fait que, comme s'il y avait ta vie de réal et ta vie là. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à parler du monde dans lequel on est. Et si on parle, c'est, mais de toute façon, je connais pas. Hein. Je suis pas qualifié. Ça fait comment? Bar, comment t'as dit? Café du commerce, qui est pas.
Tu m'as posé une question.
Ce qui est pas sympa pour les cafés.
Tu m'as posé une question sur une loi que je malheureusement connais pas du tout, et donc je me suis dit que c'était peut-être pas très intéressant.
Non,
que
je ne suis pas. C'est surtout sur les artistes qui se réunissent ici en Belgique là ce matin pour justement se mettre ensemble et par rapport à cette loi que je ne connais pas plus que toi, mais je veux dire c'est toujours la même logique de cette politique qui est menée et qui dégomme tout le social, tout le politique, la santé, voilà.
Ben je suis d'accord.
T'es d'accord de quoi ?
Avec ce que tu viens de dire.
Oui, oui, mais je vois pas, oui. J'imagine que t'es d'accord puisqu'on est assis là, qu'on se parle dans...
On pourrait ne pas être d'accord. Hein.
Genre ?
Bah, je sais pas.
Les artistes n'ont pas à se plaindre.
Bah, y a peut-être des gens qui pensent ça, oui. Il doit y avoir des gens qui pensent ça, hélas. En tout cas, y a manifestement des gens qui pensent ça au sein de cette coalition Arizona.
Ah bah oui, oui. Bon, il y a 43 minutes, les gens... Ah non, ils continuent à gratter, c'est fou, je pense qu'ils les nettoient là. Ils nettoient, j'ai l'impression, chaque petit
vitrail. Je me demande ce qui est arrivé à ces vitraux là.
Chaque petit vitraux.
Il en manque vraiment beaucoup. Hein.
Tu dis ?
Il en manque vraiment beaucoup. Il y en a un là au centre qui est intact. Un deuxième, et puis là, sur tout le côté gauche et tout le côté droit, en fait. Alors, je sais pas si eux les ont retirés pour les rénover, et puis qu'ils vont les remettre après, ou alors est-ce qu'ils ont été cassés ? Je sais pas. Est-ce qu'on a balancé des trucs dessus ?
Bon, ben... Félicien Bogart.
Oui, Graziella.
Ben, on va terminer le micro, là. Et t'inquiète, hein, moi.
T'as une autre loi que je connais pas sur laquelle tu veux m'interroger ou
Mais moi, à la base, je t'interrogeais pas sur la loi. C'est ça qui. On se comprend pas, hein. Je veux dire, d'habitude, avec les gens, ben, voilà, on parle de politique, on est là, oui, voilà comment je vois les choses, tatati, tatata, voilà, comment on tâtonne, comment. Voilà, je veux dire, ça, c'est fluide, quoi. Oui. Là. Mais là, j'ai l'impression que. Mais après, t'as tout à fait. Si t'es pas à l'aise avec ça, je comprends. Hein,
je trouve déjà que j'ai parfois tendance à m'avancer un peu trop sur des sujets que je maîtrise pas assez. Et là, quand je le connais pas du tout, je préfère pas y aller parce que sinon je vais.
Oui, mais moi c'était surtout parler des artistes. Après, évidemment qu'on connaît pas la loi précisément et qu'il faudrait. Mais c'est surtout le monde dans lequel on est ici en Belgique avec le gouvernement Arizona, avec tes cernes. Avec le temps, t'en as des fois des balèzes hein, sur tes vidéos.
Mais cerne.
Oui.
Oui, je suis cerné. C'est vrai. Mais je suis né comme ça. Hein. Je suis né comme ça, avec cette fatigue déjà. En fait, peut-être que j'anticipais depuis tout petit cet entretien. Je me dis, ouais,
c'est pas sympa.
Fatigué d'avant, je vais devoir me taper Graziella pendant 45 minutes. Heureusement qu'on est sur Campus, ma radio préférée, hein, parce que, waouh, faut se la farcir. Hein.
Ouais.
Non, je rigole. Je te taquine moi aussi.
Ok. Mais du coup, moi, ça m'amuse, hein. Ok. Mais donc, je t'ai pas mis à l'aise. Et...
Pas du tout. Bah,
on termine sur quoi alors ? T'as envie de terminer sur quoi alors ? Parce que.
Quelle est, toi, Graziella, ta zone de réconfort ? L'endroit où tu te sens. Alors, ça peut être un lieu, mais ça peut aussi être. Un livre, ça peut être un film, ça peut être un groupe de musique. L'endroit matériel ou immatériel dans lequel tu te sens la plus confortable.
Ok, je peux te répondre, mais tu réponds aussi, toi, du coup, alors aussi ?
Si tu veux, je te donnerai ma réponse après la tienne.
Ok. Ben, moi, quand tu me dis ça, ça me donne... j'ai pas une manière, comme si c'était répétitif, tu vois. Je veux dire, moi, je peux... après un micro ouvert, je peux me sentir super bien. Je peux avoir bouquiné, je peux avoir été au cinéma, tu vois, j'ai pas un, si ce n'est peut-être un truc répétitif où t'es chez toi, quand même, tu retournes chez toi, et je trouve que là, c'est trop bien chez moi.
ton appart, quoi, l'endroit où tu vis.
Ouais, voilà, c'est fait, je me sens super bien là.
Ça fait longtemps que tu habites dans le même endroit ?
Ouais, ça fait maintenant déjà 20 ans, quoi.
Et est-ce que cet endroit a évolué en 20 ans ou est-ce qu'il ressemble ? Est-ce qu'il est très différent maintenant de quand tu t'es installé ? Ou est-ce qu'il est toujours resté plus ou moins pareil ?
Il reste simple, j'aime bien. Tu vois, une table, un fauteuil, des grandes fenêtres avec la nature autour. Il n'y a rien, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radiateur, il y a juste un poêle à... Enfin, le truc hyper basique. Et ça me fait... Tu vois, c'est vraiment mon havre de ressources, quoi, de paix, voilà. Et toi ?
Ben moi, je pense que je dirais ça aussi. Je suis bien chez moi. Je vis avec un colocataire qui fait partie du Billet Vert, ce collectif dont on a parlé tout à l'heure. Elias, on habite dans un petit appartement pas très loin d'ici, d'ailleurs.
Je m'en doutais.
Non,
mais parce qu'on a donné le rendez-vous ici, je me doute que tu es là.
Ouais, je suis pas très loin d'ici et je me sens vraiment bien chez moi. Par contre, chez moi, ça a beaucoup changé parce que Elias, particulièrement, a une grande sensibilité pour les aménagements intérieurs et on a récupéré pas mal de meubles de ses grands-parents aussi qui sont plus de ce monde mais on continue à faire vivre leurs meubles, et on a un intérieur dans lequel résonnent souvent les ondes de Radio Campus, d'ailleurs, puisque la radio est souvent branchée sur Campus, et je me sens vraiment bien chez moi. Puis sinon, un espace plus conceptuel, si l'on peut dire, je dirais, dans l'amitié. Ça, c'est... Je pense que c'est le lien relationnel que je préfère. J'aime bien être avec un ami ou des amis.
Différent de l'amoureux ou de l'amour ?
Bah, c'est évidemment lié, hein. J'ai souvent pensé qu'il n'y avait pas forcément de différence de nature entre les deux.
Quand même, hein.
Bah, je sais pas, je trouve que ça dépend des gens. J'ai l'impression qu'il y a des amis dont j'aurais pu être ou dont je pourrais être amoureux, ou des amis qui sont vraiment des amis. Et mon amoureux, pour moi, c'est vraiment un bon ami, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une chouette relation. C'est parce que c'est vraiment un bon ami. Donc pour moi, il y a quand même... Ça a toujours été un espace assez mystérieux. En fait, je me suis toujours demandé s'il y avait une différence de nature ou de degré, ou ni l'un ni l'autre, entre le sentiment amoureux et l'amitié. Parce que aussi, la plupart des personnes avec qui j'ai eu des histoires amoureuses sont toujours des amis aujourd'hui.
Ah oui, tu fais après, quoi.
Ah ouais. Et par contre, je connais des gens où c'est pas possible, où ça coupe. Et c'est pas possible d'avoir... Ouais, mais oui, moi, je me sens bien entouré d'amis.
C'est chouette, ça. Pourquoi t'avais envie de poser cette question ?
Parce que comme tu me mettais mal à l'aise avec cette histoire de loi jambon sur les artistes, je me suis dit, je vais lui demander où est-ce qu'elle se sent confortable, comme ça on va parler du confort, et je me suis dit, peut-être c'est la méthode Coué, tu vois, en parlant du confort, on va amener du confort. Non, mais c'est pas que j'ai bloqué sur cette histoire de...
On s'en fout, c'est pas grave, t'inquiète.
Mais comme que je connais pas trop le sujet, j'avais pas envie... En plus, ça me concerne, puisque moi, voilà, ça concerne aussi mes droits, mon statut, etc. Et donc, je me sens un peu bête de ne pas trop connaître le sujet. Mais je trouvais que c'était une jolie question de demander où est-ce qu'on se sent vraiment, vraiment confortable. Et alors, tu sais quoi, paradoxalement, parce que du coup, on s'était donné rendez-vous dans ce parc, et tu m'as dit, mais tiens, si on allait dans l'église, parce qu'il fait frais à l'intérieur de l'église...
On est bien, là, hein, t'as vu ?
Ouais, je me suis toujours senti assez à l'aise dans les églises. Et alors que... moi, j'ai eu une éducation d'un père qui était bouffeur de curé, vraiment athée, mais athée radical et militant, comme ça. Et alors, je sais pas si c'est par esprit de contradiction, parce que je me sens pas non plus une âme de dévot, mais c'est vrai que j'aime bien les églises. Je me sens toujours bien, aussi parce que c'est grand et qu'il y fait frais, et qu'il y fait calme. Et j'aime bien aussi les plans d'eau. Les rivières, les étangs, mon copain, il vient de Saint-Nazaire, donc au bord de l'océan, en Loire-Atlantique. C'est vraiment une région d'eau. Il y a le golfe du Morbihan, pas loin. Il y a la Loire, évidemment. J'aime bien l'eau, j'aime bien les zoos. Mm. Pas les zoos.
Les animaux.
D'ailleurs, j'ai une anecdote, on a encore un tout petit peu de temps.
Bien sûr.
Une anecdote géniale qui m'est arrivée au château de Chambord. Je visitais avec mon coloc, Elias. Il était en travaux, donc on était un peu déçus du château de Chambord, mais on a quand même vu l'escalier en double hélice de Léonard de Vinci, etc. Bah, c'était quand même pas mal. Et puis après, on va à la boutique de souvenirs du château de Chambord, et là, ils vendent des pâtés, des terrines, des trucs et des bazars. Et donc, on achète, je sais plus, un pot de pâté ou je sais plus quoi. Bref, on arrive, il y a la dame qui est à la caisse de la boutique, et elle nous dit « Ah, vous êtes en visite de la région ?» On dit « Oui, oui. » Alors, elle nous dit « Ah oui, vous savez, il y a un zoo pas loin. Hein. » Alors, on dit « Ah bon, d'accord, un zoo, très bien, bon. » Alors, elle nous dit « Et vous venez d'où comme ça ?» Alors, on dit « On vient de Bruxelles, en Belgique. »« Ah, Bruxelles, mais il y a un zoo pas loin, non ?» Alors, on dit « Bizarre. » Et du coup, je lui dis comme ça « Mais vous aimez bien les zoos, hein, madame ?» Et elle me répond « Pas spécialement. » Et j'ai trouvé ça génial, cette dame qui nous parle deux fois des zoos, au milieu de nulle part. Je lui dis, vous aimez bien les zoos? Elle me dit, pas spécialement. C'est une anecdote. Alors, à chaque fois que je la raconte, les gens me regardent comme deux ronds de flanc, parce qu'ils disent, mais pourquoi ils racontent ça? C'est une des histoires que j'ai préférées de ma vie, et donc voilà, je la partage avec vous.
Eh ben, merci.
Avec plaisir, Graziella, et merci. Et tu ne m'as pas vraiment été si désagréable que ça. J'étais quand même content de te rencontrer.
Mais non, mais moi, je suis toujours... Enfin, tu vois, je suis partante pour rencontrer l'autre. Après, évidemment, on échange... des fois, ça peut se passer mal, mais c'était pas mon intention, quoi. Tu vois.
Est-ce que ça s'est mal passé, tu trouves?
Non, moi, je trouve que... Non. Ça
s'est pas trop mal passé.
Merci, en tout cas, Félicien.
Merci à toi et merci à toute l'équipe de Radio Campus.
Et puis, si les gens connaissent pas Félicien Bogart, on mettra le petit lien Facebook pour aller checker. C'est qui ce gars?
Merci beaucoup. Écoute, au plaisir, dans une autre église ou ailleurs. Avec ou sans vitraux.
On dit d'habitude dans une autre vie, mais là, dans une autre église. Merci à toi.
Ciao, ciao.